Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. On commence aujourd'hui avec Luc Laliberté. Vous voulez comprendre le dossier de George Floyd, vous savez, cet homme qui a eu le genou dans le cou, qui en est décédé. On veut comprendre toute l'historique aux États-Unis de la problématique avec le profilage racial et les policiers. Luc Laliberté est là pour nous l'expliquer. Ensuite, Maître Jean-Paul Boily nous parle de l'entrevue qu'on a fait hier avec Maître Guy Bertrand sur une requête en contrôle judiciaire qui a été déposée pour savoir si le gouvernement a bien agi durant le confinement. Ensuite, il y a Erwan Franchet de l'hôtel Le Priori qui vient nous expliquer c'est quoi la réalité des hôteliers durant cette crise-là. Ça n'a pas dû être facile, il nous l'explique. Ensuite, on termine avec les questions du public, dont une question importante. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, est-ce que le déconfinement arrive trop vite? Est-ce qu'on déconfine trop vite? Est-ce que les gens ont tendance encore à respecter les règles pour se protéger, pour éviter que s'il y a une... lors de la deuxième vague qu'on annonce du virus, qu'on reparte pas à zéro. Donc, restez là, votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On revient sur l'affaire George Floyd. Bon, vous connaissez l'histoire, c'est assez marquant aux États-Unis, cet homme-là qui est mort par asphyxie avec le genou d'un policier sur le cou. Ça a fait vraiment, au départ, il était accusé d'homicide involontaire. Maintenant, il est accusé de meurtre deuxième degré. Et les policiers qui étaient avec lui, également de complicité de meurtre. C'est très sérieux et ça a chamboulé tout le pays, évidemment. Beaucoup de manifestations. Et on voulait comprendre à Avocat à la barre un peu toute l'historique là, de la problématique pour la discrimination raciale qu'il peut y avoir avec la police aux États-Unis, et qui de mieux que Luc Laliberté, analyste politique, pour nous expliquer tout ça, historien également. Bonjour Luc.
Oui, bonjour François-David.
Merci d'être avec nous. J'aimerais ça, on pourrait commencer, c'est pas nouveau là, toute cette polémique-là là, sur la police et le profilage racial aux États-Unis là.
Non, écoute, ça fait, j'en suis au quart de siècle dans ma carrière d'enseignant. J'enseigne l'histoire américaine depuis les années 90, début des années 90. C'est quelque chose qu'on couvre assez régulièrement, malheureusement. Ce qui est particulier avec ce qui se déroule ces jours-ci, c'est l'ampleur des manifestations, puis le fait qu'on semble fonder des espoirs sur les suites des manifestations. Écoute, comme historien, là, et je fais toujours attention au parallèle qu'on effectue, on peut remonter aux années 60 là, pour voir des manifestations qui ont une telle ampleur. Le phénomène demanderait des nuances et des précisions, mais pour nos auditeurs, je pense qu'à peu près tout le monde se souvient des années 60. Là. Soit on l'étudiait, soit on était né à ce moment-là, mais c'est l'époque où on va voir les débouchés des mouvements de ceux de Martin Luther King, par exemple. Okay. Ça va mener le gouvernement américain à bouger, à mettre en place des lois pour protéger les minorités aux États-Unis. Donc, ça a été des manifestations dures, ça a été dans certains cas des manifestations même très violentes. Et là, il semble qu'on assiste à un phénomène qui soit comparable en termes, je répète, d'ampleur.
Mm-hmm. Et parce que ici, là, l'ampleur, par exemple, une des nouvelles cette semaine, on parle de démanteler la police de Minneapolis. C'est sérieux. Parce que pourquoi démanteler tout le système là, de policiers là-bas?
Écoute, la question, elle est complexe, puis je veux prendre la peine de couvrir les différents angles. D'abord, dans un premier temps, parce qu'on a l'impression qu'on frappe toujours sur les policiers aux États-Unis, puis parfois, je pense qu'on a raison de le faire. Leur approche de la justice, puis leur approche de leur travail est souvent différente de ce à quoi on assiste de notre côté. Mais je veux prendre la peine de préciser que bien souvent, ces policiers-là œuvrent, on leur confie un mandat qui est impossible. Par exemple, il y a beaucoup de villes où on a coupé dans tout ce qui est encadrement ou tout ce qui est services sociaux. Et les policiers répondent à des appels qui relèvent pas des forces de l'ordre habituellement. Mais comme ce service-là est ouvert 24 heures sur 24 puis que les autres n'ont pas de budget ou qu'ils sont fermés, c'est aux policiers qu'on demande d'intervenir. Et ils n'ont pas toujours la formation nécessaire. C'est pas toujours une approche policière qui serait nécessaire. Et les policiers, ben, une des choses qu'on demande ces jours-ci, c'est entre autres de revoir la formation, mais c'est très complexe l'approche qu'on a avec certaines communautés. Ça demande des formations pour les policiers là, sur le genre d'éducation qu'ont reçu ces gens-là, la pauvreté à laquelle ils sont confrontés, la thématique de la santé mentale. Donc, il y a beaucoup de problèmes sociaux dans des villes américaines qui relèvent pas de la police. Et je trouve que parfois, les politiciens ou les communautés ben, se lavent les mains de tout ça et placent ça entre les mains des policiers. Mm-hmm. Maintenant, au-delà de ce contexte-là, ben ça veut pas dire effectivement que les policiers font toujours bien leur travail. Et c'est là où on a assisté à, et c'est pas récent, encore là, c'est l'ampleur qui est étonnante, mais c'est pas la première fois qu'on parle de revoir le financement des services de police. Est-ce que justement on devrait continuer à maintenir le financement des services de police ou encore prendre une partie de ces sommes-là puis diriger ça vers des organismes qui interviennent dans la communauté? C'est ce que le maire de Blasio à New York vient de proposer, par exemple. Assurément, on va revoir dans beaucoup de cas, et ça, c'est positif. La réflexion, elle doit être continuelle. C'est une évolution qui est constante. On va revoir la formation des policiers. Et souvent, quand on invoque le démantèlement, il y a deux volets à ça. Dans un premier temps, on va démanteler un service de police quand on se rend compte qu'il y a un historique de violence ou de racisme et qu'on ne peut plus espérer s'en sortir. Donc, dans ce temps-là, on parle de démantèlement. Faut pas oublier aussi, puis là, ben, c'est plus délicat encore, faut pas oublier que parfois aussi, c'est une arme de négociation, le démantèlement. C'est que les syndicats de policiers sont très, très, très forts aux États-Unis et les négociations sont très difficiles. Alors, parfois, quand on en arrive à un cul-de-sac dans les négociations, ce qu'on va dire, ça a été le cas à Ferguson au Missouri, par exemple. Les gens se rappellent peut-être des incidents en 2014-2015. Ouais. Et quand on n'est pas parvenu à s'entendre avec le syndicat des policiers, on leur a dit, on va démanteler. Et finalement, il y a eu une ouverture de la part du syndicat qui a dit, OK, on va appliquer des réformes, mais on veut que ça se fasse sous un regard indépendant. Et cette fois-là, la ville et le syndicat se sont entendus pour qu'il y ait des observateurs externes pour nous aider à progresser ou à régler ce problème-là. De relation avec la communauté noire. Okay. Autre volet aussi, puis après ça, écoute, je te refais le micro, mais l'autre volet aussi.
C'est intéressant.
L'autre volet important aussi, c'est qu'on discute au Congrès actuellement de procéder à la démilitarisation des services de police. Nos auditeurs l'ignorent peut-être, mais il y a une entente que Donald Trump a relancée. M. Obama avait été intervenu pour limiter ça, et le président Trump, en revenant, ben lui, se fait le champion de la loi et l'ordre. Et il a dit, moi, je veux qu'on réanime un programme qui permettait au Pentagone de vendre ses surplus militaires à des services de police. Mm-hmm. Et vous avez peut-être remarqué, les auditeurs, que quand la police intervient sur le terrain, dans certains cas, on a carrément, c'est une perception assez claire, on a l'impression que c'est l'armée qui débarque. Ouais. Et de plus en plus, on remet en question ces manifestations de force-là. Et il y a des policiers, des experts qui disent, écoutez, on n'a pas besoin d'armes militaires. Quand on débarque dans une ville, c'est pas vrai qu'on débarque en Irak ou en Syrie ou en Afghanistan. Et bien souvent, le matériel militaire, il est même pas utile. Donc, on joue sur des perceptions, puis on joue sur un marché qui permet au Pentagone ben, de rentabiliser ses surplus en les revendant. Mm-hmm. Les policiers, ben, on peut penser au fait qu'ils veulent être bien protégés, ça je pense que c'est légitime, mais pour bien des experts, on va au-delà de ce qui est nécessaire et de ce qui est utile. Donc, ce que je viens de mentionner là, c'est pas mal le topo d'ensemble. Quand on parle actuellement là, de financement, de démantèlement, de formation, c'est un peu tout ça qui est en jeu. Et pour une rare fois, moi, je lis des observateurs qui disent le mouvement a tellement d'ampleur et il semble que pour une fois, la majorité des Blancs ait compris de quoi il en retourne. Et il y a, contrairement à beaucoup d'autres incidents précédents, il y a de l'espoir quelque part au travers de scènes qui sont parfois disgracieuses ou de scènes qui sont très dures.
Mm-hmm, je comprends. Un espoir que ça change, c'est sûr, c'est un drame ce qui est arrivé, mais ça fait bouger les choses. Mais moi, je connais vraiment pas ça, mais je vais t'expliquer mon impression. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a réellement un problème qui est beaucoup plus grave qu'on pourrait le voir en comparable avec le Canada pour ce qui est du racisme dans plusieurs milieux, dont celui policier, qu'on sait que le dommage que ça peut créer s'il y a du profilage racial, s'il y a de l'abus policier. Mais c'est quoi le problème aux États-Unis? Pourquoi c'est l'histoire qui fait qu'il y a cette tension-là raciale qui, d'après moi, est plus élevée qu'au Canada?
Écoute, il y a ici, puis je laisse le soin aux experts d'ici de se prononcer sur cette question-là, mais on a eu à composer aussi avec du profilage. Mais là aussi, la situation, elle est complexe. Il faut voir dans quelle communauté puis dans quelles circonstances on retrouve ce genre de problème-là. Je pense que tu mets le doigt sur le côté très, très pénible de l'histoire américaine. Mm-hmm. On ne s'est jamais, puis je fais attention au mot, affranchi totalement de toute cette période de l'esclavage. Okay. Écoute, c'est d'un côté fascinant, mais en même temps choquant, mm-hmm, de voir qu'il y a des comportements et des attitudes qui persistent encore en 2020, alors qu'on a aboli l'esclavage en 1865 à la fin de la guerre de sécession. Ça a été pour les minorités une très, très longue progression, très, très lente progression, et elle n'est toujours pas arrivée à terme. Mm-hmm. Et c'est dommage. Et ça se double aux États-Unis, la situation actuelle, et c'est la raison pour laquelle j'insistais sur les problèmes sociaux tout à l'heure. J'évoquais même Martin Luther King, puis ça, je pense que c'est pertinent de le faire aujourd'hui. Ouais. On se rappelle pas souvent que Luther King, il luttait contre, bien sûr, la ségrégation, la discrimination, mais l'autre grand volet de la lutte de Martin Luther King, puis c'est encore pertinent aujourd'hui, c'est la lutte à la pauvreté. Et ça, ben ça se limite pas aux minorités. Des Blancs pauvres, il y en a. On traverse actuellement aux États-Unis la pire période pour ce qui est des écarts entre les très, très riches, les immensément riches et les démunis. On n'a jamais vécu un tel écart, même pas à l'époque de la Révolution industrielle au 19e siècle. Et je pense que cette pauvreté-là, qui touche tout le monde, elle touche en particulier la communauté noire. Ouais. Et ça dépasse dans ce temps-là le contexte ou le cadre de la seule question raciale ou des services de police. Il faut s'attaquer aussi aux États-Unis à ce que moi j'appelle le filet social. Mm-hmm. Une des choses qui nous distingue des Américains, et c'est pas pour dire qu'ici c'est parfait, une des choses qui nous distingue, c'est qu'on s'assure ici de prendre minimalement soin de nos plus démunis. Ça fait partie, à la grandeur du Canada, avec des distinctions dans les programmes, là. Ouais, et ça fait partie... Ça fait partie de notre approche. Alors qu'aux États-Unis, ben, on accepte cette situation-là. Et on voit à quel point c'est difficile, même parfois chez les démocrates qui sont généralement plus progressistes, à quel point c'est difficile de s'entendre pour débloquer des budgets puis financer les écoles publiques, financer des soins de santé, financer des programmes sociaux. Donc, on va préférer investir ailleurs plutôt que dans ces services-là. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une partie de la réponse qui se trouvait là.
Ben, je trouve que c'est un très bon point, une sorte de dommages collatéraux aussi. Puis,
oui, voilà.
Tu dis aussi des vieilles séquelles qui restent aussi. Puis, ça, un petit parallèle aussi, ça me fait penser. J'ai habité à Paris, en France, puis c'était un peu ça. Il y avait toute une histoire. Les pieds noirs en France, les personnes, ouais, arabes. Puis, c'est pas nécessairement des fois du racisme, mais il y a toute une problématique de pauvreté des fois qui fait que la criminalité augmente dans certains milieux. Mais évidemment, voilà, c'est très complexe. Mais merci beaucoup, Luc. Ça me permet de comprendre. On comprend un peu mieux là, tout ce mouvement-là qui est en branle à cause de ce drame-là qui a été filmé puis qui est atroce. Parce que George Floyd, c'est quelqu'un, en plus, il aurait résisté à rentrer dans sa voiture parce qu'il était claustrophobe. De cette mort-là, c'est vraiment qui a été filmé. C'est atroce. Et tant mieux si ça fait bouger les choses aux États-Unis. On verra si c'est un virage, parce que comme tu l'as dit, c'est déjà arrivé, mais est-ce que c'est réglé? Pas encore. À suivre. Merci beaucoup. Là. Bonne journée, Luc.
Un grand plaisir. Une bonne fin de journée.
Bye-bye.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Cette semaine, on revient sur le dossier là, de la contestation judiciaire de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. représenté par Maître Guy Bertrand, que j'ai eu en entrevue hier pour nous expliquer son point de vue. Bon, c'est ce qui plaidera, grosso modo, un peu. Bien, pour moi, c'est un autre côté de la médaille, parce qu'on a été, durant le confinement, tout le monde derrière le gouvernement pour des mesures là, qui ont été prises, qui ont été draconiennes, on le sait. Mais quand même, et des fois, on se demande si l'opposition a agi de la bonne manière. En tout cas, j'en avais parlé avec Maître Bertrand. Et là, on en reparle avec Maître Jean-Paul Boily, qui est avec moi.
Ben oui.
Bonjour.
Écoutez, vous l'avez dit là, hier, on a parlé brièvement hier, mais on va en parler un peu plus, le Fonds pour la défense des libertés du peuple. Moi, j'aime ça, des
trucs comme ça. Parce que cette requête-là, c'est sûr que ça choque beaucoup de gens, parce qu'il y avait une urgence sanitaire, on a pris des mesures draconiennes, ouais. On a voulu... Et là... On se rend compte que la crise semble moins grande de ce qu'elle aurait pu être.
Quand même,
et est-ce qu'on est des gérants d'estrade de dire, bon, ben ils ont pris trop de moyens pour la contrer?
Oui, mais c'est ce que Maître Bertrand a semblé vous dire.
Ben, oui, sauf que moi, j'aimais la nuance qu'on a apportée, parce que je veux pas qu'on se fasse tirer des roches non plus, mais l'élément de savoir peut-être qu'on a fait ce qu'il fallait, c'est ce qu'il semblait dire, mais... pas de la bonne manière, parce qu'on ne sentait pas une opposition, on ne sentait pas qu'il y avait des débats réels, on sentait que ça venait plus d'une unité sans être contesté. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben écoutez, moi, je comprends, puis tu sais, j'ai pris l'entrevue que j'avais faite avec M. Bertrand. Évidemment, Guy Bertrand, c'est connu, c'est un plaideur émérite, c'est un avocat, donnez-y une roche, il va plaider. Là, je veux dire, il est capable, ce monsieur-là a fait sa carrière là-dessus. Ce monsieur-là, vous savez, les plaideurs, M. Bernier, vous le savez, on plaide de temps en temps, nous autres, là. On plaide à la radio, mais on plaide aussi au palais de justice, des fois. Mm-hmm. C'est peut-être un peu... En tout cas, on parlera pas de ça là. Mais il reste que, lorsqu'on plaide, on est des porte-voix. Hein? On est des gens qui portons les dossiers de nos clients au meilleur de nos connaissances pour faire valoir les droits de nos clients. Or, dans ce dossier-là, le fonds est allé chercher... Parce que là, je veux pas dénigrer les gens qui font partie de ce fonds pour la défense des libertés du peuple, là. Mais bon, il y a eu des articles de fait cette semaine. On voit, il y a des gens qui disent qu'il y a des conspirationnistes là-dedans, etc. Je veux pas juger ça. Mais il reste que le mandat que Maître Bertrand a pris, évidemment, on dit tout le temps, dans un dossier, faut y croire, mais on est d'abord et avant tout un représentant. On représente. Je vous donne un exemple. Le chirurgien, lorsqu'il opère quelqu'un, il rouvre, puis il a le cancer, puis il ne peut pas rien faire, il le referme, il ne l'a pas guéri. Bon, bien, l'avocat, je fais le parallèle, l'avocat, par exemple, criminaliste qui défend un meurtrier, bon, il fait de son mieux pour y donner une défense pleine et entière, mais si la personne est meurtrier ou meurtrière, elle va être condamnée pareil. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, mais Maître Bertrand, dans ce dossier-là, je pense qu'ils ont un excellent plaideur pour faire valoir leurs droits. Maintenant, là, à savoir, est-ce qu'ils ont des chances de succès, puis c'est un peu ça votre question. Il ne faut pas oublier, la loi sur la santé publique, elle a des dents, mais elle a aussi des exceptions. Il y a des règles. Il y a des règles qui disent que si le gouvernement a agi de bonne foi, a pris des dispositions, parce que, vous savez, c'est toujours pareil, c'est toujours facile de dire « Ah, ils en ont fait trop. Ah, ils en ont pas fait assez. » Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est une pandémie, on le dit depuis le début, à l'émission et ailleurs, il y a un ennemi qu'on connaît pas. Il y a une vague qui arrive, il y a un tsunami qui arrive, il y a une bombe qui saute. Si elle vous saute sur la tête, vous êtes mort. Si elle saute à 100 pieds de chez vous, ben vos voisins sont morts, vos amis sont morts, mais vous, vous êtes pas mort. Mais on ne sait pas où est-ce qu'elle va sauter, la fameuse bombe. Alors, est-ce que le gouvernement pouvait savoir, en début de pandémie, que ça serait plus à Montréal, plus à Toronto, plus à Québec? Réponse non. Plus, on le sait à l'usage.
Plus dans les CHSLD.
Et voilà. Et là, on le sait. Mais maintenant,
là-dessus, je pense qu'il y a un argumentaire que certains ont, disant que les personnes vulnérables étaient dans les CHSLD. Puis au début, je pense qu'ils pensaient manquer de lits, ont transféré des gens. Et là, c'est peut-être ça qui peut être remis en question. Mais c'est sûr qu'après coup, c'est facile
d'évaluer
tout ça. Là.
Et comme le numéro de loterie, hein? Ah, ben oui, c'est le Z8 puis le 0, les deux derniers chiffres. Ben oui, c'est évident, une fois que le boulier est sorti, c'est facile de dire. Alors, on peut pas deviner les numéros d'avance, on peut pas savoir d'avance. Le gouvernement, dans un cas comme ça, c'est évident que ça marche à tantillon, parce que on fait essai-erreur, un peu comme en médecine. Et puis là, ben évidemment, les gens de la santé publique, le docteur Horacio, puis tout tout son groupe, ils font ce qu'ils peuvent avec les données qu'ils ont. Mmh. Mais c'est pas pour rien que dans la loi sur la santé publique, on a mis expressément, puis écoutez bien, là, le projet de loi 61 qu'on a parlé à l'émission hier, là, il y a aussi des exclusions pour des poursuites qui pourraient être faites après. Et puis c'est évidemment ce que l'opposition déplore aussi. Je dis pas qu'ils ont tort, mais on dit aussi que les gestes que le gouvernement pourrait faire dans ce cadre exceptionnel du projet de loi 61 qui permettrait, on l'a dit hier, là, il y en a qui disent ça va peut-être revenir au un chum, c'est un chum, pis on va donner des contrats à tout vent, puis tout ça, là. Je penserais pas, on va prendre des contrôles. Mais il reste que on a mis dans cette loi-là des dispositions pour faire en sorte qu'on puisse pas poursuivre les gens, évidemment. C'est toujours la même chose. Hein. Un gros bon sens, la bonne foi. Si on a fait des choses de bonne foi, on peut pas revenir contre le gouvernement. Si ça a été fait de mauvaise foi, puis ça a été fait de façon, on parle souvent à l'émission, puis en droit, d'aveuglement volontaire. Hein? On dit tout le temps, si vous vous mettez les deux mains devant les yeux, puis dites, ben j'ai rien vu, ben c'est parce que vous avez fait exprès pour rien voir. Ouais. Alors, c'est là qu'il faut quand même faire la part des choses. Puis effectivement, moi, je pense qu'un recours comme ça, je dis pas qu'il n'y a pas de chance de succès, mais je dis bonne chance, puis je dis également... C'est parce qu'il faut.
Parce qu'au final, il demande pas de l'argent parce qu'il était confiné, comme on a vu dans un autre cours, mais il demande à ce que la loi soit changée. Mais des fois, pour accepter des choses, il faut se comparer puis voir le pire de la chose. Parce que d'un côté, on peut reprocher d'avoir pris des mesures assez sévères, mais on peut aussi dire qu'ils ont mis la pédale douce parce que la loi, on l'a souvent dit, leur donnait
beaucoup plus
tous
de
les pouvoirs.
Oui.
Ils auraient pu imposer beaucoup plus de choses.
Effectivement.
Être plus drastique.
Effectivement.
On l'a vu avec le cas du port du masque. On a jonglé avec ça sans jamais l'imposer.
Exactement. Puis les amendes aussi.
Et c'est sûr que ce qui a vraiment fait mal, on se le cache pas, c'est l'économie. Là.
Ah, tout à fait. Puis écoutez, ce n'est qu'un début. Continuons le combat parce que là, on commence à recommencer à déconfiner puis à reprendre l'économie, mais ça veut pas dire, un, qu'il n'y aura pas une deuxième vague. Deuxièmement, il y en a qui passeront pas. Alors, c'est certain, là, on a souvent des questions à caractère économique. À l'émission, on le sait, le public nous appelle ou nous écrive sur Facebook et puis les gens sont inquiets. À raison, écoutez, on a subi une pandémie extraordinaire, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Mmh. En tout cas, pas de cette manière-là.
Non.
Pas des coupures économiques comme ça. Puis là, évidemment, les décisions qui sont prises, c'est au meilleur de leur connaissance. Hein. Alors, est-ce que c'est les bonnes, absolues décisions? Réponse, point d'interrogation, on ne sait pas. Est-ce qu'en droit, on peut venir contester ça? Est-ce que... Puis là, Maître Bertrand disait, écoutez, c'est des pouvoirs extraordinaires, ils peuvent pas... L'opposition doit pouvoir faire sa job, ils l'ont pas fait. Il y a pas tort non plus.
Puis on avait aussi une loi, c'est intéressant, on avait une loi qui était, on le sait qu'il y a des dents, on le dit souvent, la loi sur la santé publique.
Oui, mais il y avait l'autre loi aussi qui était encore pire, qu'on n'a pas
fédérale.
Ben oui,
mais,
la loi sur les mesures d'urgence, qu'on n'a pas sorti.
Mais c'est comme des lois qui étaient vraiment, qui avaient été mises sur place en théorie, là.
Ouais.
On s'entend que c'était seulement de la théorie, là.
Tout à fait.
Et là, on l'a mis en application.
Et là, on l'a mis en pratique.
Donc, encore une fois, moi, je suis en arrière du gouvernement pour ce qu'ils ont fait parce que moi, je veux jamais banaliser un décès dans le CHSLT ou une personne, un aîné ou des choses comme ça. Mais quand même, faut voir que c'est peut-être qu'il y a lieu de l'adapter. Là, on a de l'expérience. Là.
Exact. Ben là,
qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire?
C'est
sûrement.
Sûr.
C'est le temps d'en parler.
Sûr.
Est-ce que ça devrait être les tribunaux? Pas sûr.
Ben,
puis Maître Bertrand me l'a peut-être dit. Il me l'a dit. Il trouvait que l'opposition
n'était
pas assez là.
Ben, effectivement, mais il n'y a pas tort là-dessus. Parce que là, dans un temps de pandémie, d'abord, ils n'ont pas siégé pendant un bout. Puis là, après ça, ils siègent avec des effectifs qui sont restreints. Alors, ça change toute la dynamique. Il n'y a pas tort là-dessus. Mais d'un autre côté, comment on va... puis dorénavant, on va avoir eu une expérience, c'est ça. Si vous n'avez jamais eu d'enfant dans votre vie, votre premier enfant...
Je ne veux pas choquer nos auditeurs. C'est pas fini, là.
Ben non.
Je veux dire, on parle d'une deuxième vague.
On sait pas.
On est sûr qu'elle va arriver, on ne sait pas quand puis quelle ampleur, mais En tout cas, c'est à suivre. C'est certain qu'il y a beaucoup d'interrogations encore. Là.
Bien, c'est bien évident. Puis écoutez, encore là, moi, ce que je reproche peut-être à ce regroupement-là, c'est de faire... Tu sais, on disait en début, là, on disait les annonces de Family Prix là, pour les poursuites des recours collectifs contre les CHSLD puis les organismes. On disait, hey, laissez au moins le temps aux familles de se recueillir. Tu sais, attendez qu'on ait au moins toutes les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé avant de prendre des procédures, on ne se connaît pas les dommages, etc., etc. Alors, là, je pense que, oui, c'est une poursuite qui m'apparaît peut-être légalement pas mal fondée, mais qui m'apparaît un peu, peut-être, un peu trop vite, parce que je trouve que on dégaine vite sans nécessairement avoir fait... tu sais, des fois, c'est bon de faire le tour du dossier une fois que le dossier est terminé pour dire, voici les bons, voici les mauvais coups qu'on a fait.
Parce qu'une chose est sûre, là, c'est qu'il y aura un post-mortem de ça. Ça veut dire qu'il faudra regarder comment ça a été fait. Puis c'est, moi, j'aurais pas voulu être d'un culotte de Dr Arruda ou de premier ministre Legault parce qu'il nageait dans l'inconnu. J'ai déjà fait de la gestion. On est toujours critiqué sur ce qu'on fait. Mais il y a une chose qu'il faut se rappeler quand même, puis c'est que c'est pas fini.
Et voilà.
Puis peut-être qu'en ce moment, on agit comme un peu partout, comme si tout était repris puis c'était fini. Puis d'ailleurs, ça sera ma question piège tout à l'heure aux questions du public que je vais vous poser.
Mais
est-ce qu'on pense que c'est fini puis que ça ne l'est pas, puis que tout d'un coup, on se laisse aller lousse puis ça va être pire
ça
après?
Ça peut arriver, ça. Écoutez, mais là-dessus, on va finir là-dessus, mais ce que je veux vous dire, c'est que, écoutez, on est à l'ère des réseaux sociaux. On veut des réponses tout de suite. On veut tout le temps poser des questions, puis là, prendre des procédures. Moi, je trouve que dans un cas comme celui-ci, c'est nettement trop vite.
Ouais.
Et vous avez bien dit, c'est le temps plus tard de faire un post-mortem, puis après, c'est parce que j'aime pas que les tribunaux soit saisi de ce qui se passe sur le terrain. Laissons les politiciens faire leur travail, la santé publique faire son travail, puis après, s'il faut faire intervenir les tribunaux, on le fera. Mais moi, je trouve que c'est prémédité de le faire immédiatement.
Mais le mot de la fin m'appartient. Mais, ça, je le donne à Maître Bertrand. Quand on parle de droits et libertés au Canada,
c'est sensible.
C'est toujours sérieux. Il faut toujours critiquer, se poser des questions. Là-dessus, j'y donne. Donc, on verra ce qui se passe avec ce dossier-là.
À suivre.
Merci, Maître Boilly. À tantôt pour les questions du public.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Durant la crise, la pandémie, on n'a pas parlé d'un domaine qui est assez important, le domaine hôtelier. Bon, accueillir des touristes, des gens d'affaires. Et à Québec, il y a un hôtel, le Priory. Pour ceux qui ne connaissent pas le Priory, c'est dans le Vieux-Port de Québec. Superbe hôtel, accueillant. Donc, et cet hôtel-là réouvre aujourd'hui parce que, comme tous les hôteliers, ça n'a pas été facile, évidemment, la crise. Et on se demandait, est-ce qu'on reste ouvert, est-ce qu'on ferme en attendant que ça passe? Et je reçois Erwan Franchet, qui est le propriétaire de l'hôtel Priory. Bonjour.
Bonjour, Maître Bernier.
Merci d'être là. C'est vraiment... expliquez-nous un peu, là, comment ça s'est passé avec les hôtels, là, hors onde. Vous m'avez dit, là, c'était un service essentiel. Dès le départ, les hôtels sont restés ouverts, là.
Oui, effectivement, l'hôtellerie a été considérée comme service essentiel, mais beaucoup d'hôtels ont choisi de fermer en mars face à l'effondrement de la demande et à toute la situation entourant la pandémie et au confinement. Nombre d'hôtels à Québec, on parle de 80% des hôtels dans la ville qui ont fermé au plus haut de la pandémie.
80%, c'est impressionnant, ouais, comme chiffre.
Oui, c'est énorme. On était à un moment, 93% des travailleurs de l'hôtellerie de la ville de Québec étaient au chômage. On est à une industrie qui a des coûts fixes qui sont énormes. Hein. C'est comparable à l'industrie lourde comme la sidérurgie. On a notamment les frais d'hypothèque, les assurances, les taxes en tout genre, et notamment les taxes municipales. Donc c'est vrai que même si on a été fermé, même si on n'a pas accueilli de clients, On a engagé énormément de frais pendant ces derniers mois pour s'assurer que nos hôtels soient toujours fonctionnels pour quand on les réouvrirait.
OK. Et c'était le questionnement durant la pandémie de dire est-ce que ça vaut la peine de rester ouvert ou pas? Là. La décision, je pense, est assez facile à prendre parce que si vous êtes ouvert, là, d'employer des gens à peu de capacité, ça peut être très dommageable.
Là. Tout à fait. Et puis l'incertitude finalement qui règne dans le contexte dans lequel on évolue a beaucoup aussi pesé dans la balance, voyant qu'il n'y aurait pas forcément de plan dévoilé tout de suite, ne connaissant pas aussi des échéances du déconfinement pour les autres secteurs de l'industrie touristique, parce qu'on est un écosystème. Hein, si les restaurants sont fermés, si les attractions sont fermées, déjà qu'il n'y a plus d'événements, quel est l'intérêt pour les visiteurs de la province de se rendre dans la ville de Québec s'il n'y a pas d'animation et d'activité à leur offrir?
OK, je comprends. Et comment, parce que là, bon, la réouverture, très intéressant à savoir. Et par contre, comment vous anticipez l'avenir? Comment ça va se passer? Est-ce que vous pensez que les Québécois vont être au rendez-vous dans le domaine touristique cet été? Ou?
Alors, on le souhaite. On invite d'ailleurs tous les Québécois à venir redécouvrir la capitale nationale. Mm-hmm. Il n'y aura pas d'événements, mais il va y avoir des restaurants, il va y avoir les attractions touristiques qui vont rouvrir. Il va y avoir moins d'achalandage que les autres étés, donc ça va peut-être aussi l'occasion de redécouvrir la capitale nationale avec un peu moins d'agitation estivale. Mmh. Et c'est sûr qu'on a besoin des Québécois pour repartir la machine. On a vu une belle solidarité des Québécois pendant le confinement pour l'achat local. Et il va être temps d'acheter des vacances aussi locales cet été pour encourager l'industrie touristique québécoise.
Je comprends. Et qu'est-ce qui a changé là, à l'hôtel? Quelles sont les mesures que vous devez appliquer en ce moment?
Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a gardé quand même l'essence même de l'hôtel, qui est l'accueil chaleureux et une qualité de service élevée avec un souci du détail. Mmh. En revanche, on a installé un plexiglas, comme beaucoup d'entreprises, sur notre comptoir. On a mis en place des procédures d'enregistrement en ligne pour que les invités s'enregistrent avant d'arriver à l'hôtel. On a installé un écran tactile du côté client du plexiglas pour qu'ils puissent également faire leur enregistrement une fois sur place s'ils n'ont pas pu le faire avant. Pour l'entretien des chambres, on a augmenté nos cycles de désinfection. Nous avons aussi investi dans un pistolet électrostatique pour désinfecter la totalité de la chambre avec une pulvérisation de désinfectants et ensuite de probiotiques. Donc ça, c'est un processus donc approuvé par Santé Canada qui est utilisé, pour nettoyer finalement les ambulances. Et l'Agence des services frontaliers du Canada utilise aussi cette procédure pour ses postes de douane.
Ah, je comprends. C'est vraiment de comme on voit à la télé, là, quand ils désinfectent un espace, là, c'est le même procédé. Il faut pulvériser la chambre de ce produit-là, c'est ça?
Alors, l'avantage de cette méthode électrostatique, c'est qu'elle va permettre aux produits d'aller se déposer vraiment sur tous les recoins de la chambre. Donc, c'est des produits qui sont pas dangereux pour la santé, mais qui permettent d'éliminer tout risque et toute trace de COVID si jamais il y en avait. Et le probiotique, ensuite, va être une couche qui va créer une espèce de protection sur le revêtement de la chambre pour justement s'attaquer aux bactéries et aux virus si jamais il y en avait. Donc comme ça, on a enlevé tous les risques avant et ensuite, on dépose une couche pour minimiser encore plus les risques.
OK, bon, c'est intéressant. Ça, c'est sécuritaire. Donc, on rassure les gens qui veulent voyager. Il y a vraiment des dispositions concrètes qui ont été prises. Et j'ai pas le choix de vous demander, M. Franchet, parce que qu'est-ce qui se passe dans votre tête là, quand cette pandémie-là arrive? Il doit y avoir des étapes, parce que là, on sent une relance. Je vous sens que vous êtes positif sur l'avenir, mais ça n'a pas dû être facile.
Là. Ah, je pense qu'on a tous eu des sueurs froides, hein, tous les entrepreneurs de la planète. Il y avait le souci d'assurer la santé et la sécurité de notre équipe. Dans beaucoup d'hôtels, hein, on met beaucoup d'entreprises familiales indépendantes. Donc les équipes, c'est comme une deuxième famille. Donc, on voulait s'assurer que tout le monde soit correct. Ensuite, c'était de faire face un peu à la réalité, de se dire qu'on doit être rigoureux dans le confinement pour endiguer finalement la pandémie. Et puis, c'est sûr, c'est préparer la relance. Donc, la relance, elle passe effectivement par une solidarité des Québécois envers leur industrie touristique. mais aussi par une aide des gouvernements. Donc, le gouvernement fédéral nous a aidés avec la subvention salariale. On a des plans là qui se mettent en branle au niveau provincial. Et puis bah aussi au niveau municipal, il y a une réflexion à faire sur le système de taxation municipale, au moins pour cette année en hôtellerie, parce que là, on a des factures de taxes qu'on va être incapable d'assumer vu les taux d'occupation qu'on prévoit dans les prochains mois.
OK. Et est-ce que, justement, cette aide-là est suffisante, que ce soit de la ville ou du gouvernement? Est-ce que vous pensez être assez aidé pour passer au travers?
Ben, je vous dirais que pour les gouvernements provinciaux et fédéraux, donc il y a des actions qui ont été mises en place, à voir aussi combien de temps ça dure. Je vous dirais, Maître Bernier, que ça va être vraiment quand est-ce qu'on va avoir une vraie reprise, quand est-ce qu'on va être capable d'accueillir des touristes déjà des autres provinces canadiennes, des États-Unis et enfin du reste du monde. Là, on va vraiment pouvoir parler d'une relance et puis on va pouvoir relancer la machine. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous assurer que notre industrie touristique et hôtelière reste en vie pour être capable de faire face à la reprise. Dans une ville comme la ville de Québec, en pleine saison estivale, on n'a pas assez d'offres pour faire face à la demande. Okay. Donc même avant, on était déjà en surcapacité. Donc si on réduit l'offre, on va clairement perdre des parts de marché sur les sites mondiaux touristiques.
Mm-hmm. Je comprends. Et est-ce que, justement, est-ce qu'il n'y a pas un danger de prétendre à une reprise en ce moment? C'est ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas non plus crier victoire trop vite, là, parce que vous ne savez pas à quoi va ressembler l'été, là.
Effectivement, Maître Bernier, on nous prévoit des taux d'occupation à 15-25%. D'habitude, à ce moment-là de l'année, on frôle les 100%. On est clairement en deçà du seuil de rentabilité nécessaire pour faire vivre notre industrie. Mm-hmm. Et c'est clair que d'habitude, on va faire pendant l'été des réserves pour passer l'hiver au chaud, si je puis dire. Et donc là, ça va être quand l'hiver va arriver, il va y avoir vraiment des problèmes. Et c'est pour ça que c'est important d'adresser ces défis aujourd'hui, de façon à ce qu'on soit prêt à au moins passer jusqu'à la saison touristique prochaine sous respirateur artificiel, si je puis dire, afin d'être capable d'être en vie pour la reprise si elle a lieu en juin 2021.
C'est ça. Donc, il y a un danger qui est plus tard, là, je comprends bien. Ça peut bien aller l'été, mais vos réserves peuvent ne pas être faites là, pour l'hiver qui s'en vient. C'est important de le dire parce que en ce moment, quand vous analysez tout ça, j'imagine que dans le domaine hôtelier, les réservations sont souvent faites d'avance. Je ne sais pas votre carnet en ce moment versus celui de l'année passée, ça doit être deux mondes, là.
Effectivement, je pense qu'on a les deux extrêmes. L'année dernière, on était dans une phase ascendante qui était très agréable finalement parce qu'on refusait du monde, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est le contraire. On a très peu de réservations. Les annulations se font aussi au fur et à mesure que le temps avance parce que les invités sont dans l'attente, les Américains veulent savoir s'ils peuvent venir, les Européens pareil. Je pense que aussi, d'un point de vue Canada, on a tous le goût de peut-être se mettre un peu plus dans la nature. Mais il ne faut pas oublier aussi les centres urbains. Donc c'est vrai que le manque de visibilité par rapport à tout ça est assez préoccupant.
Oui, mais sachant qu'on ne peut pas voyager à l'extérieur, c'est sûr que si j'étais pas de Québec, Québec, c'est une fichue belle ville, on invite les gens à y venir. Et pour finir, là, M. Franchet, là, quelques mots, c'est quoi le plus grand défi là, en ce moment que vous aurez dans le futur?
Le plus grand défi, ça va être d'être capable de faire face à nos frais fixes, sachant qu'on n'a plus de chiffre d'affaires.
OK, je comprends.
Ça, c'est le grand défi.
Logiquement, évidemment, on comprend ça. Et vraiment, on vous souhaite le meilleur, puis on souhaite malgré tout une saison touristique qui sera beaucoup plus québécoise, là, mais je pense que lâchez pas, puis on invite les gens à aller vous voir cet été.
On sera ravis de les accueillir. Merci beaucoup, Maître Bernier.
Merci, bye-bye.
Merci, au revoir.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
C'est le moment des questions du public. Maître Boily qui est avec moi pour y répondre.
Au poste, à distance.
Oui, on fait toujours attention. On garde, justement, ça va introduire la prochaine question. On garde nos mesures, même si on semble, tout semble reprendre et déconfiner. Et on dirait qu'on n'a plus besoin de faire attention, mais c'est pas vrai.
Mais non.
Et d'ailleurs, je commence avec une question, M. Boily, qui vient de mon entourage.
Là, c'est votre famille, on va facturer, par exemple.
Oui, en tout cas, on m'en reparlerait.
OK.
Là, tout le monde se dit, parce que, bon, le virus, on a eu la frousse, on a été confinés. Il y a eu quand même beaucoup de morts, là, on ne se cachera pas, puis c'est pas banal là, ouais, ce qui est arrivé.
Sûr.
Mais il y aurait eu des prévisions encore plus pessimistes qui auraient fait que ça aurait été encore pire. Et maintenant, on parle de déconfinement. Mais c'est comme une impression qu'on a, c'est que comme si c'était terminé.
Ouais.
Comme si le virus était plus dangereux.
Il a disparu comme ça par enchantement.
Mais pourtant, il y a encore des cas. Pourtant, on annonce une deuxième vague sur laquelle on dit c'est pas une question de est-ce qu'elle va arriver, mais c'est quand elle va arriver. Puis quelle ampleur elle aura. Est-ce qu'on déconfine trop vite, M. Boily? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de... Parce qu'on connaît le monde. Allez vous promener, c'est ouais, plein partout. Le monde, ouais, il ne respecte plus rien. Ouais, là.
Le parc La Fontaine à Montréal, puis partout dans les rues, c'est la rue Sainte-Catherine.
Parce que là, l'expression, tu donnes un mètre, ils en prennent 10.
Exact.
Est-ce qu'il y a ce danger-là en ce moment là, de prendre trop ça à la légère?
Écoutez, au niveau sanitaire, évidemment, on n'est pas des médecins, on n'est pas des épidémiologistes, on n'est pas des gens qui sont au niveau de la santé publique. Mais au niveau légal, il faut comprendre une chose. Puis on le dit à l'émission depuis le début qu'on le dit.
Mm-hmm.
Faites pas les co-vidios, faites pas les gens irresponsables. Parce que ce qu'on a fait au départ pour éviter des problèmes... On a pris les grands moyens, malgré qu'on a dit que la loi des mesures d'urgence a pu être appliquée, on a quand même pris ces moyens-là, on a fait des fermetures de masse, on a fait beaucoup de choses.
Mm-hmm.
Si les gens pensent que c'est le beau temps qui fait que le virus s'en va, puis qu'à cause de ça, ils recommencent, parce que là, on sait, là, ils ont annoncé, ils ont changé, le décret a changé. Vous avez le droit maintenant d'avoir des gens à l'intérieur. Vous avez le droit maintenant d'être 10 personnes de 3 familles différentes. Vous avez le droit maintenant d'aller, on l'a répondu, vous allez pouvoir louer un chalet, vous allez pouvoir faire des activités, vous allez pouvoir faire certaines choses. Mais si, parce que le virus, tant qu'il n'y a pas de vaccin, on sait que le virus, il ne va pas s'en aller.
Mm-hmm.
Alors, il ne faut pas penser que parce qu'on est on commence du déconfinement, que toutes les mesures qu'on a prises de se laver les mains, l'hygiène, la distance, encore le 2 mètres. Parce que là, on parle, on l'a dit, le docteur a dit peut-être qu'il va ramener ça à 1 mètre. Mais est-ce qu'il va...
M. Boily, si on met ça à 1 mètre, c'est pas un... Je sais pas, je comprends qu'à l'international, là, c'est plus la directive, mais on sait, au moins à 2 mètres, le monde, il trichait puis il se ramassait à 1 mètre.
Ben, c'est ça. Là,
et là, on va mettre 1 mètre, il n'y en aura plus, ouais, d'après moi.
Ben, il faut faire attention. Ouais. Alors, c'est pour ça que je dis que légalement, moi, je pense que la santé publique ne va pas nécessairement changer le décret pour ça. Ils vont peut-être dire aux gens, écoutez, faites attention, soyez respectez la distanciation. Si jamais vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres, mais mettez un masque ou faites mm-hmm. quelque chose qui va faire en sorte qu'on ne reviendra pas. Parce que là, on n'oublie pas, on le dit encore. On dit, si vous ne faites pas attention, ils peuvent revenir. Il n'y a rien qui dit qu'empêche en loi de remettre en vigueur des empêchements.
On est conçu pour penser que ça n'arrivera pas.
Que tout va se régler.
Ça nous arrive jamais, ça arrive aux autres.
Écoutez, la pensée magique, c'est ça.
Ben oui, mais c'est ça qui m'a marqué. La personne de mon entourage me dit, t'sais, imagine-toi, là, bon, il y a eu un confinement, des dommages immenses à l'économie. Là, on s'entend qu'on mange
ça,
la claque.
Il y a des familles, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers sans qu'ils soient présents, puis c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle.
Alors,
ce qui est arrivé.
On veut pas que ça recommence.
Mais c'est arrivé, puis regarde, on a passé un mauvais quart d'heure, puis le problème, en plus, tout ça, quand le beau printemps arrivait, confinement, on l'a trouvé tough.
Exactement.
Mais ce que la personne me disait, c'est... Un nouveau confinement, là, tu sais, à la saison des dépressions,
au mois de novembre,
c'est gris, là. Puis là, on est pris à être confiné comme
ça. Non, on veut pas ça. Alors, c'est pour ça
le dommage pourrait être plus grand aussi sur des dépressions.
Mais oublions pas, on est des hommes de loi. que s'il y a quelque chose qui se produit puis qu'on voit que c'est le virus s'en va pas puis que on va confiner encore. Et ça, c'est certain, le décret, c'est ça sera pas long, ils vont le réadopter, ils peuvent le mettre en vigueur à tous les jours, puis ils vont le faire.
C'est ça, mais le problème, c'est dommage parce qu'on avait...
On a déjà fait des efforts qu'on aura tout perdu.
Je fais des rénaux, quelqu'un qui fait des rénovations, puis finalement, j'ai mis 4 murs, mais j'arrache les murs, je recommence.
Là, savez-vous quoi? Dans parce des zones de guerre, là, c'est ça qui arrive. Ouais. Ils rénovent, pouf, il y a une autre bombe, il retombe, il recommence. Ça peut être ça aussi qui peut arriver. Alors, il faut faire attention, il faut respecter les consignes, il faut surtout pas faire en sorte qu'on redonne un autre confinement. Ça pourrait arriver, mais si les gens respectent pas, ça va recommencer. C'est malheureux, mais c'est ça.
Qu'est-ce qui fait ça? C'est la peur. Si on n'a pas peur, on n'est pas prudent?
Écoutez, les gens ont toujours l'impression que l'État-providence va tout régler. C'est pas vrai, là. C'est un virus. C'est un virus qu'on connaît pas. Alors, respectons les règles, puis la peur de que ça revienne va peut-être faire en sorte que les gens vont comprendre que c'est pas l'État qui va régler ça. C'est la population ensemble, en respectant les règles, puis en faisant pas les covidios. Il n'y a pas d'autre solution, sinon les lois vont être remises en vigueur en force, puis la petite menace de la loi sans mesure d'urgence, là, j'aime ça tout le temps la mettre, parce que je dis tout le temps, si vous voulez pas que ça soit en vigueur, respectez les règles. Sinon, ils vont en sortir la matraque.
Mm-hmm. Mais comment, je pense à voix haute, comment le gouvernement pourrait... comment on peut mettre des mesures? Parce qu'il y a encore aujourd'hui, là, à chaque conférence, lavez-vous les mains, distanciation, mais...
C'est des décrets!
Ce qu'on sent sur le terrain, les gens respectent plus ça.
S'ils respectent pas, les gens vont. Ils vont avoir. Écoutez, au début, on a mis des amendes, on l'a vu, là, les 1546 $, il y en a eu, là. On va retourner à ça. C'est tout. Quand les gens n'écoutent pas, en prison, c'est la même chose. Hein. S'ils veulent pas écouter, ils les mettent au trou. Alors, c'est pareil. On a des pouvoirs prévus dans la loi. Si les gens ne respectent pas puis que ça fait pas en sorte que ça règle le problème, on va revenir à quelque chose. N'en déplaise aux gens de votre famille. Là, je m'excuse, mais ça va être ça.
OK. Il fallait en parler parce que même d'ailleurs,
c'est pas évident.
On écrira dans le journal, là, tu vas rappeler aux gens, on ne veut pas perdre nos acquis.
Exact.
Donc, même s'il fait beau, il faut respecter les règles. On a le temps pour une ou deux questions supplémentaires. Il y a Isabelle R. de Pierrefonds qui nous a demandé sur la page Facebook si elle peut demander une diminution de loyer pour sa mère qui habite dans une résidence pour personnes âgées, puisque depuis plus de 2 mois, elle est en confinement dans sa chambre et qu'elle ne reçoit plus les services comme avant.
Oui, mais ça, évidemment, ces gens-là, là, que ce soit dans les résidences personnes âgées, les CHSLD ou toutes les résidences où les gens reçoivent des services, on l'a dit, là. Vous payez normalement, que ce soit 1500, 2000, 2 500 $ par mois, peu importe. Vous avez des services. Vous avez des services de nourriture. Il y en a qui ont des services, par exemple, au niveau des activités sociales. Donc, il peut y avoir des services au niveau d'autres sorties, etc. Ils sont coupés, là. Tu sais, ils sont confinés. Mm-hmm. Alors, c'est clair que ils reçoivent pas la prestation de service pour laquelle ils ont payé. Ça, c'est certain, c'est clair. Alors, moi, ce que je suggère à ces gens-là, il y a un organisme qui s'appelle le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec, qui peut être rejoint, puis un centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, là, dans lequel on dit qu'on règle à peu près 90 % des plaintes et même plus, parce que les propriétaires de ces établissements-là sont bien conscients de ça, qu'ils ne peuvent pas donner les services, ils ont coupé dans certains services pour des raisons strictement sanitaires. Ça ne veut pas se dire qu'eux font plus de profit avec ça, mais effectivement ils vont devoir... puis vous pouvez régler ça avec ces organismes-là. Vous les appelez et vous dites, voici, j'ai perdu, puis généralement, ils vont peut-être vous couper. Alors, je ne vous dis pas qu'ils vont vous couper de 25 %, mais ça se peut. Parce que, vous savez, ces gens-là, 250 $ par mois, c'est important des fois. Ils peuvent peut-être vous régler, faire une réduction de loyer pour 3 ou 4 ou 5 mois, ce qui fait que votre mère va pouvoir en bénéficier.
OK, merci. Je trouve ça intéressant aussi comme question. Evelyne M., qui est sur la rive sud de Montréal.
On a toujours des bonnes questions.
Toujours. Demande si elle devra se tenir à 2 mètres de distance de son amie lorsqu'elle ira manger au restaurant et s'ils peuvent être plus que 2 à la même table lorsque ce sera permis dans les régions.
Ouais, mais
comment
là,
ça va se passer au restaurant?
Au restaurant, ce qu'on dit, là, écoutez, si elle va au Costco de Sheraton au coin de la rue, là, ben, c'est différent que ça va à un restaurant à l'intérieur. Bon, à l'extérieur, on dit qu'on garde la règle des 2 mètres, mais si vous êtes de la même famille, puis là, aujourd'hui, on parle de 3 familles différentes, possible à la même table, de pas plus que 10, mais on garde une distance, si vous n'êtes pas de la même famille, de 2 mètres, autant que possible. Ça veut dire qu'une table de 2 mètres, là, ben, ça, vous savez, en studio ici, on a une table d'à peu près 3 mètres de long là, par, je sais pas, peut-être 1,5 mètre de large, ou à peu près. Bon, on pourrait manger 2 familles faciles sur cette table-ci, parce qu'il y a une distance de plus de 2 mètres. Mais si vous êtes 3 familles différentes ici, ça risque d'être serré. Alors, oui, vous pouvez manger avec votre copain, mais si vous restez pas ensemble, vous devez garder cette distance-là de 2 mètres. Mais on dit, dans un restaurant, est-ce que la table a 2 mètres de large? Ben écoutez, là, il va y avoir des... On parlait de mettre des plexiglas, des choses comme ça. Il va y avoir des mesures de prix par les restaurateurs. Ouais. Mais vous serez pas... la police n'arrivera pas avec un galon pour dire « Ah, il vous manque 2 pouces. » T'sais. Non, non.
Ah, mais gardez... Mais on soyez, demandait aux gens de collaborer.
Ben voilà, comme on fait ici en studio, là, on se garde à 2 mètres. Des fois, on s'éloigne un peu plus parce que vous me toussez dans la face. Non, c'est pas vrai, vous me toussez dans votre coude, mais il reste que...
Je tousse pas.
Non, mais il reste qu'on fait attention. Puis écoutez, la question d'Evelyne est bonne, parce qu'effectivement, on se demande est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut être à distance ou pas, mais au restaurant...
Il ne reste plus de temps, Maître Boilly. Mais il y a une question importante. Est-ce qu'ils vont regarder la carte, savoir si on habite ensemble?
Bien, c'est ça. Les restaurants
comment ils savent que t'es un couple, t'es pas un couple?
Ce que j'ai entendu de plusieurs restaurateurs, ils disent, écoutez, on va le demander, mais on n'est pas des polices. Ah. Si jamais les gens font des choses... D'abord, les restaurateurs, c'est une question de bonne foi. Là. Oh. La police, elle arrive, elle fait des vérifications. Bien, je suis pas sûr que c'est les restaurateurs. Ils pourraient avoir l'amende, hein, parce qu'ils sont responsables aussi. Mm-hmm. C'est là qu'il faut faire attention. Okay. Mais faites des vérifications diligentes, comme on dit, et le reste, ben, c'est comme les 18 ans dans les bars. Vérifiez, mais charriez pas.
Merci, Maître Boilly. Merci à tous nos auditeurs. C'est fini pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Et comme Maître Boilly veut que je dise à chaque fois, si et Dieu le veut.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.